Il est 8h.
Dans des premières données, une étude américaine montre que sur le variant sud-africain, il y a une diminution de l'efficacité du vaccin d'environ 40%.
On n'avait donc pas encore tout vu. Le président du conseil scientifique le dit, les variants sont l'équivalent d'une nouvelle pandémie. On comprend qu'il faudra de nouvelles mesures de précaution, mais la bonne nouvelle, c'est que la formule du vaccin Pfizer serait adaptable en à peine 6 semaines. Un peu d'air pour étudiants enfermés et renfermés. Les premières années peuvent retourner à la fac en demi-groupe de TD à partir d'aujourd'hui. Dans ce journal, un indice du respect du couvre-feu lors de pointe dans le métro parisien est en ce moment observé à 17h15, bien plus tôt que d'habitude. Notre façon de travailler qui révolutionne l'immobilier de bureau, les entreprises se passent de siège social, d'autres se contentent de 25 mètres carrés. Et puis Joe Biden qui renoue avec le rêve américain. Les Dreamers, ces migrants arrivés aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants, retrouvent une protection juridique pour 4 ans, la durée du mandat présidentiel.
Juste après ce journal, menace répétée de nouveaux confinements, alerte sur les variants, mais aussi logistique vaccinale dans sa région. L'invité de la matinée, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il n'y a pas vraiment eu d'effet réveillant de Noël, peu de contamination lors du nouvel an. On en est maintenant à spéculer sur un possible effet galette des rois. Ce qui monte en revanche de façon constante, c'est la petite musique du reconfinement en parallèle d'une montée lente et progressive du nombre de patients en réanimation depuis 2 semaines et demie.
Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a détaillé sur BFM TV les craintes autour des variants du virus, ces mutations venues d'Angleterre, d'Afrique du Sud et du Brésil et qui sont en train de progresser en France.
La course, en effet, se situe entre l'arrivée des variants et puis notre capacité à vacciner. Nous avons une série de données qui montrent très clairement que le virus anglais est plutôt à des niveaux de 7, 8, 9% dans certaines régions françaises. Le variant sud-africain et le brésilien ne sont pas neutralisés par des anticorps issus de patients ayant déjà fait un Covid, donc non-protection. Et enfin, dans des premières données, une étude américaine montre que sur le variant sud-africain, il y a une diminution de l'efficacité du vaccin d'environ 40%. C'est l'équivalent d'une deuxième pandémie, ces variants.
On retient cette dernière information sur le variant sud-africain contre lequel le vaccin actuellement déployé serait un peu moins efficace.
Et vous allez tenter de nous rassurer, Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour.
On sait que l'un des avantages des vaccins à ARN, c'est de pouvoir être modifié. C'est toujours valable ?
Oui, a priori, les vaccins ARN messager pourraient être rapidement adaptés à des variants. Pfizer-BioNTech a d'ailleurs évoqué un délai de seulement 6 semaines pour le faire si nécessaire. Et quand on sait que les laboratoires s'y prennent plusieurs mois à l'avance pour adapter les vaccins contre la grippe chaque année, 1 mois et demi, effectivement, c'est court, mais c'est parce qu'avec la technique de l'ARN messager, pas besoin de cultiver un nouveau virus inactivé ou atténué, il suffit de changer l'instruction génétique dans le vaccin et ça se passe sur ordinateur et dans des éprouvettes en laboratoire. Alors sur le papier, c'est rassurant ce délai de 6 semaines, mais il faut bien sûr rajouter le temps des tests cliniques pour vérifier l'efficacité et obtenir une autorisation de mise sur le marché. Il faudrait ensuite relancer toute la phase de production et revacciner tout le monde avec cette nouvelle injection. Au-delà du coût, cela prendrait du temps. Autant dire qu'on ne peut pas compter sur le seul levier de la vaccination pour stopper cette épidémie dans l'immédiat.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, et on va s'encourager. Avec ce cap franchi ce week-end, le million de personnes vaccinées en France, on en est précisément à 1 026 000, ainsi qu'avec cette information que donne la ministre de l'Industrie dans le journal Le Parisien, Agnès Pannier-Runacher, qui confirme que 2 laboratoires ont manifesté un intérêt pour avoir accès aux capacités, aux usines donc de Sanofi pour produire d'autres vaccins. Et dans cette période où l'étau sanitaire semble devoir se resserrer sur notre quotidien, il y a une petite ouverture qui concerne les étudiants de première année de fac.
C'est aujourd'hui qu'ils vont pouvoir reprendre les TD, travaux dirigés en présentiel par demi-groupe. Diane Berger a rencontré pour Europe 1 un étudiant concerné, Théo, qui va démarrer sa semaine du bon pied.
Le distanciel a été vraiment très compliqué. On se levait, on allumait notre ordinateur, on se mettait devant et le cours commençait.
Ce quotidien qui dure depuis 3 mois, Théo ne le supporte plus. Pour tenir, cet étudiant de première année sort prendre l'air autant que possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a donné rendez-vous dans un parc. Depuis la rentrée, Théo a suivi la plupart de ses cours à distance, cloîtré dans sa chambre d'étudiant.
On a environ entre 20 et 25 heures de cours par semaine. En plus, après, il faut rajouter tout le travail qu'on fait à côté, préparer les cours. On peut passer à peu près plus de 12 heures par jour devant un écran.
À partir d'aujourd'hui, il va pouvoir assister en présentiel à la moitié de cet aidé. Pour lui, qui galérait par exemple à suivre les cours de maths, c'est un soulagement.
Je l'attends vraiment. Ça permet déjà de sortir. On se rend sur notre lieu d'études, on revoit nos amis, on pourra mieux interagir. Si on a des questions, on peut les poser directement. Et la motivation, quand on est seul à distance, on la perd facilement.
Dans sa classe, sur 25 étudiants, 2 ont déjà abandonné avant même la fin du premier semestre.
8h06 sur Europe 1. Et peu à peu, on l'observe tous. Hein. Cette crise sanitaire bouleverse des pans entiers de notre quotidien. À commencer par notre façon de travailler et de nous déplacer.
Eh oui, les deux sont intimement liés. Le couvre-feu généralisé à 18h a encore changé nos habitudes. Et d'ailleurs, la bonne manière de le vérifier, c'est de regarder les chiffres de fréquentation des transports en commun. Aurélien Fleureau les a obtenus.
En région parisienne, le pic de fréquentation était jusque-là à 18h15. Cette hyper pointe du soir se situe désormais autour de 17h15-17h30. C'est ce qu'a constaté Île-de-France Mobilité, qui a demandé à la RATP d'adapter son offre en conséquence avec plus de métro et de bus dès 15h30. Jusqu'à 18h, la fréquentation est en hausse de 15% avant de fortement chuter à partir de 19h. Les réseaux de transport ne ferment pas pour autant beaucoup plus tôt qu'avant. Il faut assurer un service pour ceux qui travaillent en décalé, rappelle Frédéric Bavré, directeur général France de Keolis.
On a assez peu réduit l'amplitude, notamment parce que l'enjeu, c'est de toujours continuer à desservir les établissements de santé qui ont souvent des horaires décalés avec des gens qui sortent tard le soir. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a réduit la fréquence pour s'adapter au fait qu'il y a objectivement moins de monde.
Keolis qui remarque que la fréquentation reste en baisse depuis début 2021, 65% par rapport à l'an dernier à Nancy par exemple, et c'est une inquiétude durable que nous confirme Transdev. Tous les opérateurs sont en pleine réflexion pour réduire l'offre, par exemple sur les bus qui desservent les universités faute d'étudiants, mais également pour enclencher le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Aurélien Fleureau vient de pointer cette baisse de fréquentation globale. Le télétravail y est sans doute pour quelque chose.
Et la réflexion, en conséquence, ne porte pas que sur les lignes de bus. Les immeubles de bureaux, autrefois symboles de la puissance ou de l'image de marque d'une entreprise, vivent une sérieuse remise en question de la part de leurs locataires, comme le confirme l'enquête pour Europe 1 d'Élise Dangean.
En matière d'immobilier, le bureau n'a clairement pas été le produit star l'an dernier. Selon Immostat, le nombre de ventes a été divisé par 2. Les surfaces louées en Île-de-France ont fondu comme neige au soleil et les investisseurs se sont fait plus discrets. Certaines entreprises se sont même séparées de leurs locaux. C'est le cas d'un cabinet d'affaires parisien qui a troqué ses 900 m² de bureaux pour une salle de 25 m². Économie réalisée grâce à l'opération, 400 000 euros par an. De son côté, le cabinet d'audit PwC a fusionné 3 bureaux en un grâce à un système de rotation de ses équipes et pas uniquement pour des questions financières, selon Benjamin Ribaud, associé en charge de l'expérience des collaborateurs.
C'est une source économique qui est appréciable, mais derrière, il y a aussi toute une source de coûts, notamment les équipements pour pouvoir travailler de chez soi. Donc un second écran d'ordinateur, avoir une chaise de bureau la plus confortable possible et après aussi investir sur tous les sujets de formation.
Choix assumé chez PSA, par exemple, qui incite au maximum au télétravail. Objectif d'ici à 2022, réduire de 30% son nombre de mètres carrés occupés. Et c'est déjà en cours avec la suppression pure et simple de son siège social en septembre dernier.
Élise Dangean, du service économie d'Europe 1.
Le journal Le Monde publie ce matin une nouvelle enquête liée à des accusations d'inceste. C'est cette fois le producteur de télévision Gérard Louvain et son mari Daniel Moine qui sont mis en cause. Le neveu de Gérard Louvain, aujourd'hui âgé de 48 ans, dénonce des sévices sexuels subis lorsqu'il avait entre 10 et 14 ans. Il a déposé une plainte le 8 janvier, 4 jours après les révélations de ce même journal sur Olivier Duhamel.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Après Donald Trump et son mur, voici Joe Biden et son décret pro-immigration. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
La pandémie au cœur d'un coup de fil entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Hier soir, le premier coup de téléphone depuis l'investiture du nouveau président américain. Une heure d'entretien et une grande convergence de vues selon l'Elysée. Les deux chefs d'État ont aussi parlé de l'accord de Paris, du nucléaire iranien, de l'OTAN, de la Chine ou encore du Sahel.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Le nouveau président américain a par ailleurs lancé un projet de loi qui vise à régulariser 11 millions d'immigrants sans papier.
Oui, et c'est le projet de loi de régularisation le plus progressiste de l'histoire, selon la directrice de l'association pro-immigration United We Dream. Le texte envoyé au Congrès prévoit une régularisation par étapes. Il s'adresse aux sans-papiers qui contribuent à l'économie américaine. Le projet de loi leur donnera la possibilité de demander une carte verte dans les 5 ans afin d'obtenir un statut légal. Il faudra tout de même remplir certains critères comme payer des impôts aux États-Unis, puis dans les 3 années suivantes, ils pourront demander et obtenir la citoyenneté américaine. Autre volet de ce projet de loi, la protection de ceux que l'on appelle les Dreamers. Ce sont ces jeunes migrants arrivés enfants aux États-Unis. Joe Biden a rétabli via un décret leur statut pour 4 ans. À cela s'ajoute l'arrêt de la construction du mur à la frontière mexicaine et une aide directe de 4 milliards de dollars à des pays d'Amérique centrale pour s'attaquer aux racines de l'immigration. C'est donc un virage à 180 degrés pour la politique migratoire américaine. Donald Trump avait limité l'immigration légale, durci l'obtention du droit d'asile et appliqué une politique de tolérance zéro vis-à-vis des migrants illégaux.
Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1. Et puis Mathieu, la France est en quart de finale du mondial de handball en Égypte et ce grâce à sa victoire 32-23 sur le Portugal, ce qui place aussi les Bleus en tête de leur groupe.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.